temps que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios.
La plus rebelle des radios.
Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol volé et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille l'info.
Canu, donne-moi des infos.
Chaîne Dodoué, pompe Dodoué. Bonsoir
et bienvenue au Canu Info du vendredi. Il est 19h02. Et du coup, ce soir, on va commencer par vous parler d'un rassemblement qui a lieu tout de suite en soutien aux délinquants solidaires.
Ensuite, on fera un petit point sur la syndicate. C'était une course de coursiers en soutien à leur lutte contre les plateformes de livraison.
Puis, nous vous parlerons du Fort Saint-Laurent qui accueille des sans-abri à la Croix-Rousse et qui va être transformé en hôtel de luxe.
Et enfin, on arrivera dans les Vauquiéseries. On vous parlera notamment de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui veut que tous les salariés du BTP maîtrisent le français.
Et puis, Vauquiéseries toujours. Vauquier, il veut des frais de séjour pour financer ses séjours à Lyon en plus de ses salaires.
On arrivera après dans la rubrique nationale et on passera un reportage. On parlera surtout des luttes contre les CAO à Toulouse.
Et puis ensuite, on parlera de la mairie de Calais qui empêche les migrants de se laver.
Puis, nous vous parlerons de l'occupation à Bure.
Pour finir, par le traditionnel agenda. Et donc, tout de suite, on vous appelle, vous êtes dans le coin des terreaux, et donc vous allez aller au rassemblement de soutien aux délinquants solidaires qui a lieu maintenant. Du coup, il y a un rassemblement en soutien aux accusés de délit de solidarité, maintenant place des terreaux à Lyon, puisqu'en effet, la solidarité n'est pas un délit et que personne n'est illégal. Du coup, c'est notamment le collectif ENS de Lyon en lutte qui vous appelle à les rejoindre maintenant pour se tenir debout, ensemble, dignes et solidaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui a eu lieu la délibération pour le procès de Cédric Héroux, criminalisé pour avoir tendu la main à des personnes en détresse, et qu'il a donc écopé de 3 000 euros d'amende avec sursis. Et il compte désormais attaquer l'État pour non-respect de protocole de réadmission. Donc ce rassemblement, il appelle à être solidaire avec les migrants et les migrantes, qui, après avoir franchi les obstacles imposés par la peur, la haine et les calculs politiques, arrivent dans notre pays. Donc voilà, on vous appelle à aller tout de suite place des terreaux pour rejoindre ces personnes en solidarité aux migrants et aux migrantes.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus
agissons
smart.
Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Allez bien, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
Ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous
êtes
en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. En chantant résiste.
Et on résiste, et ceux qui résistent, ce sont les coursiers lyonnais. Samedi dernier, donc le 4 février, ils organisaient une course pour faire connaître leur mouvement, le club des coursiers lyonnais, et mobiliser un petit peu autour des plateformes de livraison qui les exploitent. On écoute tout de suite un petit reportage.
Elle, c'est Chloé. Elle adore les bons restos et sait toujours dénicher les meilleures adresses. Comme ce nouveau japonais. Parfait, Chloé. Vos restos préférés, enfin livrés. Foodora. Nous livrons vos savoirs.
Canu Info du vendredi.
Autre entrepreneur, flexibilité, réactivité, proactivité, rentabilité, service.
Autant de mots que le livreuse et livreur à vélo ont dû accepter. Oui, mais voilà, elle et il ne veulent apparemment plus se laisser faire. Samedi 4 février, le collectif de coursiers de Lyon organise une syndicate dans les rues de Lyon pour faire connaître leurs revendications. Ambiance, pédale automatique, gros braqueur et résistance.
Vas-y, Louison !
Reportage.
Ça va être comme la dernière fois, ce que c'était pas la dernière fois. Le manifeste, vous allez le récupérer place Carnot cette fois-ci. Donc vous allez avoir ce papier-là, place Carnot. Dessus, je vous montre de loin. Vous avez chaque checkpoint. Il y a un checkpoint qui est bonus. C'est avec Macron. Il est à Gerland. Voilà, donc vous aurez pu chercher. Il est à Gerland. C'est avec Billy Butler que vous voyez caché là avec le scooter. Voilà. Ensuite, vous avez autant. Vous avez jusqu'à 16h30 pour aller à chaque checkpoint. Vous allez dans l'ordre que vous voulez, dans le sens que vous voulez. À 16h30, les checkpoints y ferment, on se retrouve tous au club, 10 Courbaillard, et la petite chistole, et après on va aller s'amuser à côté. Et puis voilà. En 2-3 soleil ouais. Allez, tous qu'on peut mieux.
Après une réunion qu'on a fait avec un peu genre les mecs qui roulent et qui sont peut-être qui en ont un peu marre de se faire ubériser comme des connards, tu vois. Du coup on s'est tous réunis, on a commencé à discuter de savoir comment on pouvait améliorer notre situation, qu'est-ce qu'on pouvait faire, et parce que notre statut est quand même précaire, tu vois. Donc on a décidé de faire une course pour un peu rassembler tout le monde, puis tu sais, un peu cool, et puis en parler un peu, discuter, voir qui était chaud, et puis c'était un peu un espèce de mouvement, voir s'il y avait du monde qui voulait, puis de rejoindre un peu tout le monde.
Raymond, regarde là-bas.
Eh ben, je le reconnais, c'est Louison Babin. Vas-y, Louison.
Mais du coup, là, aujourd'hui, c'était quoi, une course à l'E4? C'est quoi le concept? Est-ce que ça se fait souvent?
Non, pas moi.
Lui, il roule juste.
Ça vient de
New York, non?
Ouais, c'est à l'E4 pour chercher le choper le chat.
Ouais.
Comme ça. Et en fait, l'idée, c'est genre c'est une course d'orientation en vélo, quoi. Donc on chope un manifeste et ensuite on a les points à récupérer et on fait le parcours qu'on veut pour choper tous les points et arriver le premier à l'arrivée.
Et donc toi c'était le premier à l'arrivée alors. Là, ce que t'as là c'est le manifeste, c'est une feuille où il y a écrit du coup tous les checkpoints où tu dois passer. Et par exemple, si tu peux nous lire le premier checkpoint, c'était quoi?
Le premier checkpoint, ouais mais il est pas génial. Je vais t'en donner, on en avait un, c'était donc ça en était un. C'était la Fessine rejoindre le Talbike et cible de tir. Donc en fait on avait un collègue, il a un vélo qui a un cadre, un premier cadre, et il a foutu un deuxième cadre dessous, il l'avait mis en hauteur, et du coup on le voyait pas mal. Et après on avait un espèce de stand de tir, on devait tirer sur des feuilles dans les arbres. On gagnait un bonus temps en fonction de comment on tirait quoi. Et voilà.
Et du coup toi a priori t'as gagné parce que t'es plutôt entraîné, mais pourquoi t'es plutôt entraîné?
Non bah on bosse tous les jours sur le vélo, je sais pas, à 30 ou 60 bornes par jour au final. Puis on connaît la ville comme facile quoi. Ça dépend.
Numéro
t'as plusieurs catégories, pas de catégorie de coursier, mais bon t'as ceux qui font ça un peu en job étudiant, tranquille. T'as ceux qui font ça pour dépanner. Et puis t'as plus d'autres personnes plus qu'un peu comme nous. On prend une attitude et une démarche comme une. Comment on dit pour montrer une appartenance à un groupe. On roule tous en fixie. On n'est pas forcément brandé, tu vois, on a juste un sac. Brandé, ça veut dire on monte pas forcément pour qui on bosse. Enfin, notre but. Ouais. Bah déjà, il nous exige le statut d'auto-entrepreneur. Je vois pas, on est à notre compte, quoi. Je vois pas pourquoi on ferait de la pub pour une certaine boîte, alors qu'on peut très bien bosser pour n'importe laquelle. Quoi.
My brothers and sisters, the time has come for us. Let's ride the bike. Time has come for revolution.
Et donc là, on rentre dans le local Bah du coup des coursiers de Lyon. Alors c'est une petite descente comme ça. Il y a tout le monde qui descend avec son vélo. Il y a des vélos un peu bizarres. Il y a, bah, je sais pas, il y a un monsieur derrière moi là. Il a une grosse remorque. Mais c'est quoi ce vélo en fait là? Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi? Vélo de sale vagabond à la base et puis c'est devenu un vélo de taf.
Ah parce que du coup tu livres et tu mets ton truc que tu livres derrière comme ça là.
Si je
livre
des gros
choux. Mais c'est pas juste des cartons de pizza que tu mets à l'arrière là. Ah ouais, t'es pas.
C'est le pizzaiolo que je mets.
Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que vous avez tous des vélos. Bah pas toi en fait, j'allais dire tout le monde a des fixies mais j'ai menti.
Moi j'ai des vitesses, lui il a des vitesses. Lui il y avait. Non il y a pas de vitesse. Lui il a des vitesses.
C'est vrai là qu'on entend le bruit des chaussures.
Ah ouais ouais c'est en fait.
Ah ouais mais j'y vais ouais. Alors là on rentre dans le local et en fait ça ressemble vachement plus à une cave qu'à un local. Il y a des tenailles, des coupe-boulons au mur. Alors ouais, il y a des cadres accrochés au plafond. Et là il y a tout un atelier, j'ai l'impression.
Radio Canu.
Pour les coucher, pour poser, il y a une machine à café, et un petit écran, avec des jeux vidéo, et puis après il y a l'atelier là, il va y avoir un pied d'atelier pour les vélos, une salle pour les peintures à côté, on a un compresseur, le pistolet à peinture et tout, donc à côté ça va être pour les peintures.
On passe dans une bâche en plastique en fait. Ouais.
Et derrière la bâche, ça vient encore jusqu'ici en fait, là pour la place.
Et du coup, le financement, comment ce local?
Pour l'instant, tout ce qui a été financé, c'est lui et moi.
Un coup de pédale.
Voilà, en pédalant, on fait nettoyer. Et...
C'est pour décapsuler, c'est tout en fait.
Et l'idée, c'est que ça, c'est une sorte d'assaut entre coursiers pour pouvoir venir réparer son matos, comme il y a déjà plein d'ateliers, d'ateliers à Lyon, mais plus pour les coursiers. Pour s'organiser des courses, s'organiser des déplacements. Des... Enfin, voilà. Et en fait, comment ça marche ici, c'est tout en prix libre. Café prix libre, t'as plein de pièces, s'il y a des pièces, c'est prix libre aussi. C'est vraiment de rassembler les coursiers, avoir un endroit où se rejoindre, être une communauté pour pouvoir ensuite se fédérer derrière quelqu'un qui peut aller parler, enfin voilà, avoir le club des coursiers qui peut aller parler aux plateformes directement et que ce soit pas chaque coursier qui doit envoyer un mail qui sert à rien, un email qui sera sûrement jamais lu. Et là, ça permet d'aller au repas et dire que vraiment on parle pour 100, 150 coursiers pour l'instant et avec le temps, essayer d'en avoir un maximum. Aussi bien au niveau là à Lyon, mais c'est ce qui se passe dans chaque ville. Et avoir un dialogue entre toutes les villes, c'est les collectifs coursiers qui se développent dans chaque ville. Ils font des AG, chacun de son coin, dans son équipe, est en train de voir son ressenti, c'est de faire une liste de ce qu'ils veulent, se mettre en commun au niveau France, et ensuite on pourra s'exprimer réellement. Tu vois. Ça sert à rien de défendre chacun son steak, encore une fois, et qu'on n'ait pas tous la même vision. Il y en a qui sont pour qu'on garde un statut d'auto-entrepreneur, mais qui soit plus régulé. Il y en a qui sont pour qu'on parte tous sur des CDD, CDI.
Il y a un truc qui est amusant, c'est que en fait, l'auto-entrepreneuriat, ça réinvente en quelque sorte, c'est un peu le retour au 19e siècle, en disant le contrat de travail qui devait être protégé contre le rapport d'inégalité avec ton employeur. Vous êtes un peu en train de réinventer le syndicat aussi, de fait.
De fait, vu qu'on n'a plus de délégués syndicaux, etc., qu'on est chacun dans notre coin, il faut un syndicat pour défendre la profession, c'est tout.
D'accord. Et du coup, vous avez des liens avec les syndicats constitués un petit peu
Absolument pas, et on ne cherche pas à se faire affilier à un syndicat. On pense qu'en tant que coursier, on n'a pas été ni avec FO, ni avec CGT, ni avec peu importe. C'est pas notre combat, et on veut pas justement pris par des lobbies derrière, des choses qui font qu'on ne pourra pas vraiment défendre nos opinions.
Et au niveau de ce qui peut être le taf d'un syndicat, de l'armement juridique, vous avez
c'est des choses qui sont envisagées pour l'instant ça va petit à petit, au fur et à mesure des aventures, on a un accident, bah, on découvre qu'il faut avoir une assurance, avoir un avocat en face pour faire défendre ses droits à l'assurance. Donc c'est des choses après qu'on se donne entre nous, ce qui la communauté permet de... Un copain qui a eu un accident au mois de juillet, bah, moi je l'ai mis au mois de janvier, il m'a donné la procédure à suivre, il m'a donné toute la... Ouais, le doc de comment se débrouiller dans cette situation-là, chose que les entreprises font pas du tout, pas d'appel, rien du tout pour se demander comment ça va, si on est suivi par un médecin, quoi que ce soit, il n'y a pas de ce côté-là. Donc il faut que c'est cette communauté, cette entraide qui doit arriver derrière. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir des docs, ouvrir des docs et les partager en ligne au maximum pour que tout un chacun, aussi bien un coursier à Bordeaux qu'un coursier à Paris, qu'un peu importe.
Grave, d'autant plus que genre le club des coursiers là, c'est hyper nouveau, tu vois, parce que les coursiers ça fait un an et demi qu'ils sont là à Lyon, tu vois.
Ouais, c'est leur contrat de délivrance,
tu vois. Et donc du coup avec Mike on a monté le truc et c'était tout neuf, il y avait personne. Tu vois. Du coup là ça commence à bouger, il commence à avoir du monde et tout et les gens commencent à s'approprier un peu le truc, mais il faut continuer, je pense, il faut continuer vraiment à faire des events comme ça pour que les gens se disent moi je, enfin tu sais, je suis de CL.
Il y a d'autres gens. C'est quoi, t'es tout seul sur ton vélo, tu roules, tu croises des têtes mais tu t'arrêtes pas. Et quand tu te poses un événement comme ça, tu te dis ouais voilà, je suis pas solo, j'aime tous les coups de séquelles. Ouais. Quand tu vas les recroiser entre deux livraisons, tu vas les saluer, et ça va te crier en fait. C'est toute la journée tu roules comme un pédé sur ton vélo, mais toutes les 5 minutes tu dis bonjour à un pélo.
Bah c'est bien, tu vois. Et puis même ça échange des tuyaux, genre ouais t'as fait quoi, qui, comment, ça, t'as les bons trucs, ça dépanne aussi. Tu sais, genre histoire juste de se dire bah mec, là j'ai une fois une clé de 12, je suis dans la merde. Ou fais-moi une chambre, un truc matériel, tu vois, tu sais que ça va être rendu parce que tu le connais, tu vois, bien sûr. Hein. Donc c'est cool. Et je pense qu'il faut vraiment un groupe comme ça sans se syndicat en fait. Ouais, ou partager un barbecue, tu vois ce que je veux dire? Genre, venons à CGT, les mecs, ils vont
aller dans un barbecue.
Radio Canis, indépendant. Et pour la première classe, on rappelle belle, on prend la deuxième.
On
se donne
un cadre
d'outil,
moi,
je suis. Ah, mais il y a déjà tout le monde.
On va lancer un.
Pas
cette
top-bike.
Un cadre d'outil. C'est lui, là, en dark, derrière.
Et oui, les coursiers se mobilisent. Et tout de suite, on va parler d'autre chose, puisqu'il y a le Fort Saint-Laurent à la Croix-Rousse qui va être transformé en hôtel de luxe. Un hôtel de luxe en haut de la Croix-Rousse.
Et oui, parce qu'on vient d'entendre parler de la mobilisation des coursiers, mais vous avez aussi sûrement entendu parler de la mobilisation autour du logement à Lyon. Alors, on a parlé plan froid, plan moins froid, mais au-delà de ça, il y a des vrais problèmes d'hébergement à Lyon. Et notamment, un foyer pour sans-abri va bientôt être transformé en hôtel de luxe. Alors, de quoi est-ce qu'on vous parle là maintenant ? Depuis l'hiver 2015, le Fort Saint-Laurent, grand bâtiment en pierre du XVIe siècle situé à la Croix-Rousse, accueille des sans-abri. Mais d'ici quelques mois, ce centre d'hébergement, géré par le foyer Notre-Dame des sans-abri, devra fermer ses portes pour laisser place à un hôtel de luxe. Ce nouvel usage du bâtiment, très surprenant puisque plus de 1800 personnes dorment dehors à Lyon en ce moment, a été décidé par le ministère de la Défense, propriétaire des lieux, et la préfecture, à l'issue d'un appel d'offres lancé pour trouver un nouvel acquéreur à ce site. Sur les rangs, pour acheter ce bâtiment d'exception, l'association lyonnaise, du coup le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, gestionnaire du centre d'hébergement, n'a pas été retenue. Dans un communiqué qui a été publié ce mardi, les élus du premier arrondissement ont vivement regretté le choix de l'État. Du coup, qu'est-ce qu'ils disent communiqué ? Il dit « Cela contredit les engagements formulés par la ministre du Logement et de l'Habitat Durable, Emmanuelle Causse, lors de sa visite du Fort en mars 2016. Le nouvel usage de ce lieu, d'une hospitalité inconditionnelle à une hospitalité mercantile, contribue à altérer le cadre de vie de notre arrondissement, déjà marqué par un phénomène exponentiel de gentrification, une politique immobilière municipale imprévoyante et une forte tension sur les prix de l'immobilier aux dépens de vivre ensemble. » Contactée par le journal 20 minutes, la préfecture a confirmé que ce site, ancien bastion de la muraille Saint-Sébastien, serait cédé à un groupe hôtelier. Du coup, la préfecture dit « Sur les 8 offres retenues, le ministère de la Défense a choisi la plus offrante, évidemment. Le foyer avait peu de chances de l'emporter, son offre de rachat étant, selon la préfecture, inférieure d'1 million à celle proposée par le futur acquéreur. » Donc, concernant le devenir des 90 personnes accueillies dans le fort, l'État se veut rassurant. Donc, qu'est-ce que nous dit l'État ? Une réunion est prévue jeudi avec le foyer pour parler de l'avenir. Nous allons aider cette association à trouver un lieu, à acheter ou à construire. Ces personnes hébergées auront des solutions de relogement, assure la préfecture. Alors, est-ce qu'on peut vraiment être rassuré par ces termes de la préfecture ? Quand on voit par exemple que ce lundi, après avoir ouvert à grand renfort de publicité des places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri, la préfecture du Rhône a décidé de fermer tous les gymnases et de jeter à la rue plus de 300 personnes, dont de très nombreux enfants, on doute fortement de la volonté de la préfecture de permettre à ces 90 personnes d'être relogées. Et alors, la mobilisation des professionnels de l'urgence sociale, la présence de personnes lors des fermetures de bâtiments, permettent de mettre la pression à la préfecture. Et donc, en fait, on souhaite vraiment que cette mobilisation ne cesse pas pour que ces situations ne se reproduisent plus et que la loi soit enfin appliquée.
On souhaite que l'on ait appliqué, et entre autres saletés, il n'y a pas que la préfecture qui fait des saletés, il y a aussi Laurent Vauquier.
Qu'est-ce qui rapporte plus de points au Scrabble qu'à la région?
Vauquier.
L'assistanat est aujourd'hui un des vrais concerts de la société française. L'assistanat est aujourd'hui un des vrais concerts de la société française.
Merci beaucoup Laurent Vauquier de nous avoir rejoints, mais évidemment tout de suite. Comment vous vous sentez ce soir?
Je pense qu'on a une région qui est extraordinaire. Elle a un potentiel fabuleux. Je pense qu'on a du potentiel, on a de l'énergie, on a des ressources. Ce que je veux, c'est que notre région soit la première région de France. C'est que ce soit un modèle de ce qu'on peut réussir en France et que tout simplement chez nous, oui, je l'assume, on puisse se dire, voilà le modèle d'une France qui a retrouvé ses repères.
À la ferme.
La ferme ? Quelle ferme ?
À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con ?
Et oui, Vauquier parle toujours d'assistanat, ça lui arrive, mais cette fois, c'est peut-être lui qui va faire de l'assistanat, on en parlera tout de suite après cette première information. Alors une fois de plus, Laurent Vauquier marche dans les pas du Front National. Il veut ainsi contrôler le niveau de langue française des ouvriers du BTP avant leur embauche. Il s'agit en fait d'une clause de langue française intégrée dans un projet supposé lutter contre le travail détaché. Elle a été votée jeudi lors de l'assemblée plénière du Conseil Régional. Elle oblige les entreprises du BTP à employer des ouvriers maîtrisant le français pour, je cite, à s'assurer de la bonne compréhension des règles de sécurité sur le chantier. Les entreprises qui ne respecteront pas cette obligation pourraient avoir à payer une pénalité d'un montant d'environ 5% de celui du marché. Alors ça concerne à peu près 120 chantiers commandés par la collectivité régionale cette année. Le président de la région souhaite en fait opérer des contrôles sur les chantiers via ses agents territoriaux qui devront donc vérifier le niveau de langue de l'ouvrier pendant que celui-là sera par exemple en train de pelleter ou d'utiliser un marteau-piqueur. Pratique. Mais le nationalisme de Vauquier en fait apparaît vite comme la véritable raison de cette mesure. Il a ainsi déclaré, je cite, « Nous nous abritons derrière des motifs de sécurité, oui, et ils sont parfaitement légitimes. Comme il ne peut pas ouvertement discriminer, il utilise autre chose pour justifier cette mesure. » Quant à Patrick Magnolia, le vice-président en charge des transports, il a essayé de défendre la mesure en s'enfermant, selon Rue 89 Lyon, dans un propos consistant à considérer que les ouvriers européens et étrangers travaillent nécessairement moins bien que les ouvriers français. On n'en doute pas. Premièrement, une telle clause concerne les personnes employées étrangères dans le cadre du travail détaché. Mais elle est relativement factice puisque des ouvriers embauchés hors du cadre de cette mesure ne parlent pas forcément mieux le français que les Européens détachés. Deuxièmement, une telle clause pourrait être illégale puisqu'elle pourrait rentrer en opposition avec un article du Code pénal qui affirme, je cite, que « toute distinction opérée sur le fondement de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français constitue une discrimination ». La conseillère régionale FN, Sophie Robert, a invité Laurent Vauquier à intégrer son parti tant les prises de position et décisions politiques concordent. C'est elle qui le dit, et vraiment sur ce point, il est difficile de lui donner tort. Enfin, à propos du travail détaché, plutôt que les horreurs nationalistes de Vauquier, on vous recommande la lecture d'une interview d'un travailleur du BTP, publiée sur le site local La Rotative, donc larotative.info, et intitulée « La solution n'est pas un repli nationaliste, mais un syndicalisme transfrontalier », on l'espère. Et puis Vauquier toujours. Alors Vauquier ne marche pas que dans les pas du FN, il marche aussi dans les pas du RPR, ou de l'UMP, ou encore des Républicains. En pleine affaire Fillon, Laurent Vauquier, président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, hein, toujours député aussi de la Haute-Loire, s'est dit que c'était sans doute le moment d'essayer de gagner un peu plus d'argent grâce à l'argent public. Alors qu'il cumule déjà les mandats, il réclame une hausse de ses indemnités à hauteur de 1 000 à 1 500 euros par mois. Selon son cabinet, le vice-président des Républicains, souvent en déplacement, aurait besoin d'autant d'argent pour, je cite, « ne pas dormir dans sa voiture ». On peut recommander à M. Vauquier d'aller voir les gens qui sont vraiment contraints de dormir dans leur voiture, pour voir si c'est une situation de laquelle il est proche. Lui qui est aussi député cumule ainsi les indemnités au point d'avoir atteint le maximum légal, c'est-à-dire 8 231 euros bruts par mois. Mais visiblement, ce n'est pas encore assez. Au Conseil régional, Vauquier a fait voter le fait de se faire rembourser ses frais de bouche et d'hôtel pour toutes les nuits qu'il passe à Lyon. Il habite en effet au Puy-en-Velay et se rend ici 3 jours par semaine. Le Conseil régional lui accorde 60 euros par nuit et 15,25 euros par repas. soit entre 1000 et 1500 euros par mois suivant le nombre de réunions du conseil. La mesure est plus que cynique quand on sait qu'une mesure prise à son arrivée au conseil régional était de diminuer les indemnités des conseillers régionaux de 10%. Mais selon son cabinet, Wauquiez est, je cite, un élu précaire. On rigole. Alors qu'il touche déjà près de 6 SMIC, hein, en demander un septième sous le prétexte qu'il habite à 130 km de Lyon et qu'il cumule les mandats, est totalement indécent. Et alors qu'il a placé son mandat sous le signe de l'austérité, on peut quand même se demander si M. Wauquiez a une quelconque idée de ce que le mot décence signifie. Et tout de suite, on passe aux informations nationales.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border.
نترابط مع بعض بشكر في الأول للناس اللي مساهمة معنا في الوقفة معنا في الموضوع بتاع الدوبلين والحاجات دي والحمد لله نشكرهم كثير وإن شاء الله حصلنا شوية تطور بالنسبة لكسر الدوبلين وما عارفين احتمال المشكلة ما بتقعد يعني في الدوبلين بروحه بس احتمال نواجه تاني صعوبات طبعا متمنين نترابط مع بعض ونتضامن مشان نواجه كل صعوبة اللي نلقاها قدام ونحن برضو معاهم في أي عذر عنده نحن واقفين معاهم فيه إن شاء الله شكرا شكرا لي ونزا فغلي كي يبقى دوبلين مننا Et au début, ils ont dit que non, ça va être Dublin, mais maintenant, ils ont cassé à certaines. Alors, c'est qu'il y a un changement, un petit changement quand même. On pense que c'est bon, ça va y aller peut-être.
Petit à petit.
Oui, petit à petit, mais il faut qu'on remercie beaucoup les gens qui sont avec nous, qui nous soutiennent, alors qui restent toujours avec nous, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après, c'est pas en fait les problèmes, c'est pas seulement les Dublin, mais il y aura aussi après d'autres problèmes, on ne sait pas ce qui va se passer, mais alors quand on est toujours ensemble, et puis ça serait bien pour plus en savoir plus et pour aussi c'est-à-dire
rester solidaire
oui rester toujours solidaire oui ouais, c'est ça okay. C'est que je veux dire.
Désolé, mais on a un petit problème avec l'insertion téléphonique directe avec les personnes qui luttent contre les CAO à Toulouse. Et du coup, en attendant de peut-être la rétablir, on va aller du côté de Calais, où la mairie empêche les migrants de se laver. Et oui. Alors, qu'entre 100 et 500 migrants sont de retour à Calais, parmi lesquels de nombreux mineurs, la mairie a installé une benne à ordures devant le local du Secours catholique pour empêcher les exilés de venir s'y doucher. Ils n'ont pourtant pas d'autre choix, puisque depuis le démantèlement de la jungle, il n'existe plus de structure étatique d'accueil sur place. Donc, depuis mercredi, la mairie de Calais fait barrage avec une benne à ordures à la mise en place de douches par le Secours catholique dans son local, près du port. Devant les grilles du local, dont l'association est propriétaire, impossible d'entrer ou de sortir. Une benne métallique municipale empêche tout accès. Avant l'arrivée de la benne, le directeur de cabinet de Natacha Bouchard, donc la maire des Républicains de Calais, Antoine Dière, avait bloqué la grille avec sa voiture. On remarque ici le zèle municipal toujours présent. La mairie, elle, a dressé un procès verbal pour infraction au code de l'urbanisme. Alors, les exilés sont de retour à Calais depuis plusieurs semaines. Donc, comme on vous l'a dit, entre 100 et 500, selon nos sources, sont à la rue. Ce sont pour la plupart des mineurs entre 15 et 17 ans. Ils tentent donc leur chance la nuit pour rejoindre l'Angleterre sur les camions et essayent de s'occuper le jour. Et à part les maraudes des associations qui apportent de la nourriture et des soins, rien n'est prévu pour eux à Calais. L'État leur propose de se rendre à Saint-Omer, à 50 km, dans un lieu d'accueil pour mineurs. Donc, il faut déjà s'y rendre à Saint-Omer à 50 km. Et c'est ce qu'ils font lorsqu'ils sont trop épuisés. Mais c'est un lieu où il n'est pas possible d'essayer de rejoindre l'Angleterre. Par ailleurs, des dizaines d'habitants ouvrent aussi leurs portes, dont dans le réseau du Secours catholique ou dans d'autres réseaux, et notamment le réseau No Border, pour des nuits de répit et des douches. À Calais, les autorités refusent d'ouvrir des lieux d'hébergement pour les migrants. Alors, pour éviter la reconstitution de campements d'infortune à Calais et ses environs, comme le ministre de l'Intérieur et la ministre du Logement l'ont indiqué le 30 janvier aux associations, dont le Secours catholique. Donc le Secours catholique qui a ouvert depuis début janvier un accueil de jour dans un autre lieu à l'extérieur de la ville, a constaté des cas de gale et du coup insiste sur le fait que les douches sont importantes au-delà des cas de gale qui effectivement se développent quand on n'a pas accès à l'hygiène décente. Il est normal d'avoir accès à des soins minimums. Le Secours a commencé en urgence à installer deux modulaires de 4 douches chacun et un modulaire d'accueil. L'association s'appuie sur cet argument de l'urgence pour faire valoir qu'elle n'est pas en infraction sur le code de l'urbanisme, je cite, qui prévoit qu'on puisse ouvrir en urgence un dispositif temporaire de 3 mois sans avoir besoin de demander l'autorisation. Nous considérons qu'il y a urgence, on veut ouvrir ces douches le plus rapidement possible. Enfin, au-delà de ça, on peut être quand même atterré que la mairie et du coup les Républicains utilisent le code de l'urbanisme pour priver plusieurs centaines de personnes du minimum de la dignité humaine, à savoir pouvoir se doucher, se laver et avoir accès au minimum de soins. Joint par téléphone, du coup, Emmanuel Ajus, premier adjoint chargé de l'urbanisme, s'étonne des projets du Secours catholique. Ce sont des douches, vous me l'apprenez. Nous, ce que nous constatons, c'est que deux conteneurs sont installés sans déclaration préalable, voire demande de permis de construire, d'autant qu'on se trouve dans une zone soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Et que l'on soit le Secours catholique ou Madame Michu, la loi est la même pour tous. Donc le premier adjoint relève par ailleurs que le projet initial du Secours, qui a ouvert ce local 3 mois avant le démantèlement de la jungle, était le tri et la distribution de vêtements et de chaussures tous les 15 jours, et que l'association, lors d'une réunion publique en présence de la mairie, avait rassuré la population sur ce point. Ça a été accepté par la population, ce n'est pas pour que ça revienne un centre Jules Ferry bis, dit l'adjoint en référence au lieu de douche et de distribution de repas, ouvert en 2015 à l'écart de la ville, à proximité de ce qui allait devenir la New Jingle, la nouvelle jungle, quoi. Autre argument de l'adjoint au maire, cela va devenir de facto un établissement recevant du public, et il faut le passage d'une commission de sécurité. L'argument de sécurité préoccupe aussi l'association puisqu'elle dit s'il y a le feu dans le bâtiment, les pompiers ne peuvent pas entrer à cause de la benne qui bloque le passage. Hier, il y avait 25 bénévoles à l'intérieur, il y avait surtout plusieurs dizaines, voire centaines de personnes qui venaient profiter maigre chose qu'on leur proposait, à savoir deux douches. Au-delà de cette guérilla, qui se prolongera sans doute devant les tribunaux, la ville pose la question de l'aide humanitaire aux migrants et de ses conséquences, et ose dire, l'État a, à notre demande, démantelé la jungle de Calais et fermé le centre Jules Ferry, du coup d'accueil provisoire des migrants. C'est terminé, insiste M. Ajust. On a beaucoup donné, et la population, qu'on oublie trop souvent, n'en peut plus. Et alors, les migrantes et les migrants, eh ben, ils n'en peuvent plus non plus. Alors qu'on l'a vu que des milliers de personnes avaient été sorties de Calais sans réelle prise en charge a posteriori, on ne peut que s'horrifier du mépris des autorités à Calais et de la détresse dans laquelle elles laissent des centaines de personnes. Le baroufle médiatique qu'a été l'expulsion de Calais ne doit pas masquer le fait que l'État laisse délibérément des milliers de personnes à la rue, sans solution, sans hébergement et sans aucun respect de la dignité humaine.
Oui, pardon, on est super désolé, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un petit problème de tonalité dans le téléphone. Du coup, on devait faire une interview avec des gens à Toulouse. L'interview va probablement être faite et on va vous la diffuser tout à l'heure. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est une interview à propos de Bure. Générique.
J'ai trouvé de drôles de rumeurs sur le gaz de schiste. Il paraît que ça pourrait contaminer les autres sources, que ça tuerait les cultures aussi. Certains ont dit qu'ils ont pu mettre le feu à leur eau courante. On parle aussi de cas de cancer. Steve, ça a l'air vilain, non ?
Il ne Attention, on va en arriver à des extrémités. Il y a des dépôts qui vont se mettre à flamber. Il faudra pas demander d'où ça vient.
Et voilà, et du coup, en attendant de pouvoir joindre notre contact à Toulouse pour vous continuer à vous parler de la question des migrations et notamment des CAO à Toulouse, on va aller plutôt du côté de l'Est et un peu du Nord-Est pour aller du côté du Bure. On a de la chance d'avoir un copain qui a passé du temps à Bure ces derniers temps et qui va pouvoir nous expliquer cette lutte. Du coup, peut-être on va commencer par se demander qu'est-ce qui se passe à Bure là depuis des années et qu'est-ce que c'est que cette lutte ?
Salut. Alors, à Bure, déjà, où c'est Bure ? Première question. C'est pas si loin de Nancy et Metz. C'est un peu plus loin de Paris. C'est dans la Meuse. C'est un endroit où il n'y a pas grand-chose. Et c'est peut-être pour ça que ce lieu a été choisi. Parce qu'il a été choisi pour qu'on y implante un site, le site d'enfouissement de déchets nucléaires. Parce que pour l'instant, il n'y a pas forcément de solution à la question des déchets nucléaires. Et donc, l'ANDRA, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, qui a un laboratoire à Bure même, a décidé d'implanter un site d'enfouissement de déchets nucléaires nommé CIGEO. Et donc, il y a des gens qui s'organisent depuis de nombreuses années là-bas parce qu'ils ne veulent pas trop de ça dans leur jardin, mais ils ne veulent pas trop de ça non plus dans l'absolu, parce que le nucléaire, on n'a pas forcément posé la question dans les années 70-80 au moment de ce choix-là. Donc il y a des gens qui sont sur place et qui s'opposent à ça.
Et j'ai l'impression que là, ça fait quelques temps qu'on en entend un peu plus parler qu'avant. Et notamment, il y a eu pas mal d'actions cet été autour du bois, le jus.
Oui, tout à fait. Cet été, ça a marqué, il y a eu une première occupation du bois, donc le bois, le jus, qui est censé être entièrement défriché dans le but de faire des forages pour les galeries souterraines et de faire des puits d'aération pour les futurs déchets nucléaires, disons-le ainsi. Donc ce bois, il a été occupé une première fois cet été. Il a été expulsé à grand renfort de gendarmes au début de l'été. Il y a eu une volonté de réoccupation qui a échoué une première fois au mois de juillet, qui a été réprimée assez violemment sur la base des répressions qu'on a pu connaître ce printemps en ville. Et entre-temps, l'ANDRA a commencé à ériger un mur pour entourer la forêt dans le but de pouvoir faire ses travaux de défrichement tranquillement. Et il se trouve qu'il y a eu un recours juridique contre ce mur et que le recours juridique a déclaré que la construction du mur avait aucun permis de construire, que le défrichement était illégal. Et à partir de là, il y a eu une, en plus des décisions juridiques, il y a eu une manifestation le 15 août qui a fait tomber le mur. Donc le mur, c'était un moment très fort parce que un mur qui tombe, vu le nombre de murs qui sont érigés autour de nous dans nos quotidiens, c'est une image très forte, ça évoque plein de choses. Et maintenant, c'est vraiment devenu un symbole du monde nucléaire. Et je trouve que, enfin, il y a encore les vestiges dans la forêt et ça vaut le coup. Le mur, il a été redécoré entièrement et ça a pris un essor à ce moment-là.
C'est une belle image, ce mur qui tombe, effectivement. Et ça donne un peu envie, là, de notre côté de Lyon, d'essayer de s'imaginer un peu plus de comment est-ce qu'elle se passe, cette occupation. Est-ce que vous êtes nombreux et nombreuses ? Quelle forme ça prend ? Est-ce que vous êtes acceptés par la population ?
Alors, l'occupation, elle se décline sous plusieurs formes. C'est qu'il y a des habitats légaux dans les villages alentours, des bases logistiques, des maisons, la possibilité de dormir en dur, d'accueillir des gens. Donc ça, c'est super chouette quand on débarque là-bas. Après, il y a un espace dans la forêt, donc des gens qui habitent dans la forêt, dans des cabanes dans les arbres. Et il y a des trucs en construction. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui vivent dans la forêt et il y a des appels à venir construire sa cabane là-bas et ça c'est super chouette. Sur la perception des locaux, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens sont relativement d'accord sur le fait que des déchets nucléaires à côté de chez eux, ils en veulent pas trop. Après, c'est vrai que l'ANDRA, ils ont une méthode relativement connue qui consiste à subventionner tout et n'importe quoi aux alentours, histoire de faire accepter ce qu'ils ont prévu de faire. Et du coup, sachant qu'ils s'implantent dans la Meuse, qui est un territoire historiquement très paysan, ouvrier, et qui, depuis les guerres, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, ont été énormément dévastés, et ils se positionnent un peu en sauveur de l'emploi dans le coin. Donc ils ont ces arguments-là, donc il y a un peu un statu quo au niveau de beaucoup de villageois qui sont partagés. Après, c'est vrai qu'il y a des locaux qui sont vraiment contre ce projet, et il y a du soutien logistique, et ça fait vraiment plaisir.
Ouais, c'est chouette, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une vraie mobilisation et un peu des modes, on peut dire, de lutte contre ce projet qui prennent plusieurs formes en fait, qui sont déjà l'occupation comme tu l'as dit, la destruction du mur, le fait de pouvoir venir aussi sur des moments particuliers comme des grosses manifestations, mais aussi des procédures judiciaires.
Ouais, tout à fait, c'est que c'est chouette, on se rend compte de l'efficacité des différents modes d'action, et notamment en termes de procédures juridiques, ils ont une équipe, une legal team qui est super rodée là-bas et qui permet de qui conteste toutes les décisions de justice, qui met des recours sur toutes les actions illégales de l'ANDRA, parce qu'il faut savoir que l'ANDRA, ils ont construit un mur illégalement, ils ont commencé à défricher illégalement, le bois, le jus, ils l'ont échangé avec la mairie de Mandrembarois, une commune aux alentours, un matin à 6h du matin, en conseil municipal, gardé par la gendarmerie, à vote à bulletin secret. Du coup, en termes de méthode juridiquement valable, on a vu mieux. Donc il y a une super équipe qui fait énormément de boulot, et du coup, en ce moment, il y a deux procédures principalement qui sont en cours. L'ANDRA a intenté un procès pour l'occupation de la forêt. Donc là, c'est comme un procès d'expulsion de squat. Il y a des gens qui sont déclarés, donc il y a moyen de, en prouvant que les gens habitent sur place, il y a moyen de faire tenir ça. Et il y a une autre procédure qui est sur la validité de cet échange. Et donc les rendus se font à la fin du mois, et ça conditionnera un petit peu peut-être la manière d'agir de l'ANDRA, de la gendarmerie, parce qu'ils ont le soutien de la gendarmerie.
Mais parce que du coup, alors, comment est-ce qu'elle se positionne, la lutte ? Est-ce que du coup elle compte principalement sur ses recours judiciaires ? Est-ce qu'elle compte organiser des formes d'action spécifiques ?
Alors là-bas, on compte en partie sur les actions juridiques parce que ça a prouvé son effet, mais pas que en fait, parce qu'on se rend bien compte que la justice, ça les intéresse peu et qu'il faut du monde sur le terrain pour être dans l'urgence. Et donc en termes d'action, là, en vue de la menace d'expulsion, il y a un appel du 14 au 18 février, aussi bien un appel à action décentralisée, donc partout, à Lyon, en province, de partout, à faire des choses en soutien à Bure, et aussi à venir à Bure du 14 au 18, avec notamment le 18 février une grande manifestation. Donc ça prendra la tournure, si c'est expulsé, mais je ne l'espère pas, d'une manifestation de réoccupation. Et sinon, ce serait une manifestation pour consolider l'occupation, construire des cabanes, découvrir la forêt, une manifestation festive. Et voilà, on verra quelle tournure ça prend.
Parce que du coup, l'expulsion, elle est imminente, là.
Eh bien, le recours d'expulsion, le délibéré, il est rendu le 22 février, donc après l'appel du 18. Donc, pour l'instant, légalement, ils n'auraient pas le droit d'expulser des habitants, mais c'est pas exclu qu'ils ne se gênent pas là-dessus, parce que ces trois dernières semaines, ils sont venus trois fois à renfort de vigiles, parce qu'ils ont des vigiles privés, l'ANDRA. Ils ont une milice qui est armée comme des CRS, c'est incroyable à voir. Et il y a aussi la gendarmerie qui vient leur prêter main forte, ils viennent avec des pelleteuses, donc rien ne d'exclu.
D'accord. Et du coup, toi, si tu devais essayer de convaincre quelqu'un en deux minutes d'aller à l'ANDRA mi-février, qu'est-ce que tu leur dirais ? Enfin, d'aller à Bure pour lutter contre l'ANDRA, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Ce que je leur dirais, c'est que Bure, c'est un lieu qui est super chouette, c'est que y a une énergie collective qui est très folle, ça construit des choses en opposition à un projet, mais ça construit, et y a une dynamique très bienveillante entre les gens, un très bon partage des savoirs, partage des tâches. Il y a vraiment une dynamique d'horizontalité entre tout le monde qui est vraiment très chouette, et c'est aussi un truc en construction, donc quand t'arrives, t'as aussi ta place parce que c'est moins cristallisé que, qu'ailleurs, des lieux où ça lutte depuis longtemps, où il y a des choses qui sont figées, et à Bure, tout est à faire.
Ça, c'est que j'ai l'impression que c'est une lutte assez chouette, parce que ça permet un peu de mettre ensemble et des luttes antinucléaires dont on n'entend quand même pas souvent parler au final, moi je trouve, par rapport à la place que ça prend au quotidien et au risque que c'est. Et du coup, c'est un positionnement politique fort, en fait, quand même, contre les politiques antinucléaires, et que ça permet de dépasser cet aspect-là pour créer aussi des pratiques autogestionnaires, on peut dire ça.
Non, c'est clair, c'est que ça trouve du soutien du côté des antinucs, comme on les appelle, et il y a aussi tout plein de gens qui ont peut-être été déçus de ce printemps dans les villes et tout, qui se retrouvent aussi là-bas, et c'est une manière de prolonger ce qu'on a pu trouver ces derniers mois en termes d'autogestion, d'autonomie, de manière d'habiter différente.
Ok, merci beaucoup pour cette intervention sur Bure, très détaillée, très précise. Je vais juste préciser un ou deux mots sur ce qui s'est passé malheureusement avec les personnes qui se mobilisent pour les migrants et les migrantes à Toulouse. On devait en fait avoir une camarade au téléphone et puis la ligne radiophonique de Canu ne marchait pas. On a tenté de faire une interview en direct au téléphone, ça n'a pas marché non plus depuis l'arrière. Voilà, on vous raconte les coulisses d'un Canu Info quand on essaie de faire les choses en speed, en courant partout dans les studios. Pour finir, on a décidé de reprogrammer cette interview la semaine prochaine, donc ne ratez pas le Canu Info de vendredi prochain. Je ne sais pas exactement quelle date c'est, mais ça doit être le 17 d'après mes calculs, 17 février, où il y aura du coup une intervention précise sur les personnes qui se mobilisent et qui s'organisent pour soutenir les migrants et les migrantes à Toulouse. Pour le coup, on va passer au traditionnel agenda. Pas non plus de nouvelles internationales ce soir, mais l'agenda, lui, il est là.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Quel bordel. Alors, on commence avec le samedi 11 février. Donc le samedi 11 février, vous le savez, on est vendredi 10 février. Donc logiquement, c'est demain. Et du coup, demain, il y a un rassemblement, un premier rassemblement à 14h, place du Pont à la Guillotière, contre les crimes policiers, contre la répression de l'État. La jeunesse est dans la rue et voilà. Du coup, ce rendez-vous est intitulé « Justice pour Théo, justice pour Adama, justice pour Mehdi, justice pour tous. Appel à rassemblement ». Les quatre policiers accusés d'avoir frappé et violé avec une matraque Théo, un jeune homme de 22 ans d'Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne, ont été suspendus de leurs fonctions et mis en examen. Mais un seul l'est encore pour viol en réunion, les trois autres accusations étant requalifiées en violence volontaire. Une manifestation de plusieurs centaines d'habitants du quartier populaire de la Rose des Vents, où s'est produite l'agression, s'est déroulée lundi 6 février. Au cri de « Justice pour Théo », des maires du quartier, en tête de cortège, exprimaient leur colère. « On étouffe ici, comme nos enfants vont continuer à vivre avec ça. » Ça, c'est cette agression particulière barbare et humiliante. Et c'est aussi la conscience que l'attitude provocatrice de la police dans les quartiers populaires n'a rien d'exceptionnel. Le racisme, les provocations, les contrôles répétés, les humiliations, voire la violence des policiers font partie du quotidien. Certes, tous ne se conduisent pas en voyous racistes, mais les discours des politiciens, attisant la haine contre les immigrés ou ciblant les jeunes de quartiers populaires comme autant de délinquants, participent à donner aux policiers le sentiment qu'ils peuvent tous permettre. La visite qu'Hollande a faite au chevet de Théo est bien peu de choses en face de l'attitude de l'État. Les policiers agresseurs font partie de la BST, Brigade Spécialisée de Terrain. Censées être des brigades de proximité, elles ont été armées et équipées sous le gouvernement Sarkozy, en 2010, pour se spécialiser dans l'intervention dans les quartiers difficiles. Je cite « Pour être eux, être sûrs sur le terrain, ça veut dire se comporter comme des cow-boys au milieu des Indiens », explique un jeune du quartier, qui travaille dans un collège du secteur et qui poursuit. Ce n'est pas seulement l'attitude de la police, c'est l'absence de boulot, l'absence de justice qui fait qu'il n'y a pas d'égalité. La famille de Théo exige la justice pour le jeune homme, toujours hospitalisé après avoir été opéré suite aux blessures infligées par le policier. Elle peut compter sur la solidarité des habitants du quartier et au-delà. Pour rejoindre les personnes qui ont écrit cet appel, c'est donc demain, samedi 11 février, à 14h, place du Pont, donc on est à la Guillotière, et on vous invite à vous y rendre.
Évidemment, une manifestation contre les violences policières et d'État, ça ne suffit pas. Donc on vous invite à aller à un nouveau rassemblement face aux violences policières et d'État dimanche 12 février à Vénissieux. On a trouvé un appel pour ce rassemblement sur Rébellion, donc on va vous le dire, rébellion.info. Les terribles événements qui ont eu lieu mercredi 1er février au Minguette, sans faire mention de décès, mais aussi le 11 décembre dernier dans cette même ville où Mehdi a été assassiné par la police, résonnent avec le drame de Théo Dolnay, d'Adama et des victimes quotidiennes de la police dans les banlieues. Dimanche, rassemblons-nous toutes et tous pour manifester notre soutien aux habitants et aux habitantes des Minguettes et aux enfants des quartiers populaires, aux victimes quotidiennes de la répression gratuite et ciblée, de violences physiques et symboliques, du racisme d'État. Donc le rendez-vous est donné à 13h devant le collège Elsa Triolet. Le collège Elsa Triolet, il se situe 3 avenue de la division Leclerc. Si vous y allez par exemple en transport en commun, vous pouvez prendre le tram T4 et vous arrêter à Vénissy. Face aux violences policières et à la répression d'État, donc un appel à un rassemblement ce dimanche 12 février à 13h devant le collège Elsa Triolet à Vénissieux. Pourquoi exactement ce dimanche 12 février ? Ce dimanche 12 février, Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, est annoncée au collège Elsa Triolet à Vénissieux pour s'extasier devant un événement organisé par la Métropole et le centre multimédia lyonnais Erasme, à savoir Edumix. En l'occurrence, il s'agit de célébrer le numérique et de numériser l'école sans esprit critique, avec le parti pris que non seulement l'informatique et le numérique sont nécessaires dans l'école de demain, mais surtout que c'est sous cette forme privée, entrepreneuriale, cybernétique que doit être imposée cette technologie à l'institution scolaire. Changeons les cartes, hackons les lieux, hybridons les dispositifs, ubérisons l'enseignement. Et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit entre autres d'ubériser l'école. Merci Edumix d'être aussi franc. Madame la ministre va donc venir promouvoir le travail de ses créatifs, de ses pédagogues, qui innovent avec l'argent du contribuable, sans probablement évoquer les terribles événements qui ont eu lieu mercredi 1er février au Minguette, sans faire mention du décès le 11 décembre dernier dans cette même ville de Mehdi. Mais voilà, que s'est-il passé vraiment ce mercredi 1er février au Minguette ? Un clip et un concert de rap gratuits ont eu lieu, et la police française de l'État français, dont Madame la ministre est encore pour quelques mois un personnage important, a gazé et frappé des dizaines, voire des centaines d'adolescents et même d'enfants. Des gamins et des gamines de 4 ans ont été gazés, en prenant le prétexte d'un feu de poubelle et de quelques pierres soi-disant lancées. Des enfants de 14 ans, tabassés, menottés, ont fait 24 heures de garde à vue et sont poursuivis par la justice. Que vont devenir ces jeunes dans cette situation ? Comment oser parler ? Comment vont le faire Edumix et le ministre du sentiment d'appartenance ? Sommes-nous déjà dans ce monde du futur que nous promettent Google & Co, où les forces de l'ordre frappent, gazent, violent, tuent des enfants dans les quartiers populaires sans que personne ne s'émeuve ? Dimanche, rassemblons-nous toutes et tous pour manifester notre soutien aux habitants et aux habitantes des Minguettes et aux enfants des quartiers populaires, aux victimes quotidiennes de la répression gratuite et ciblée, de violences physiques et symboliques, du racisme d'État. Donc je vous rappelle ce rendez-vous, c'est à 13h devant le collège Elsa Triolet, 3 avenue de la division Leclerc, au tram T4 à Rêve-Vénissy. Donc les personnes qui ont appelé au rassemblement réclament de la part de la ministre, mais également des représentants de la métropole, une condamnation ferme des événements survenus l'après-midi du 1er février au Minguette, du comportement scandaleux indigne des forces policières présentes, ainsi qu'une enquête sur les violences policières. Elle réclame également l'abandon de toutes les poursuites judiciaires sur les jeunes, voire les enfants, qui ne sont que les victimes de ces événements et non des coupables qu'il faut battre et gazer. Au-delà du vocable victime ou coupable, on se rend compte surtout de la violence institutionnelle qui s'exerce chaque jour dans les quartiers et ailleurs sur la population.
Ouais, pas de justice, pas de paix. Et du coup, on va profiter pour vous annoncer encore un autre événement.
Et oui, parce que du coup, après ce week-end, vous allez vous reposer le lundi, ou si jamais vous en avez le besoin ou envie d'aller prêter main forte, vous irez au cours de langue à la plume noire, ou alors au collectif qui peut vous aider juridiquement sur la question des migrations, et notamment pour aider des sans-papiers et des sans-papières à la Lutine 91 rue Montesquieu. Et une fois cette journée de lundi passée, vous allez vous demander que faire mardi 14 février. Et mardi 14 février, vous allez pouvoir vous rendre à Terre des Livres, notamment pour parler autour du livre d'Assia Zeno, Des hommes entre les murs, comment la prison façonne la vie des Palestiniens. Alors, du rite de passage à l'âge adulte d'un jeune homme, aux horaires de visite autour desquels s'organise l'emploi du temps d'une famille quelques années durant, la prison au centre de la vie quotidienne en territoire occupé. Que veux-tu que je te dise ? J'ai commencé à visiter les prisons en 1967, quand mon mari était détenu. Et là, je suis encore dans la même situation. Il y a eu la période où tous mes fils étaient en prison, tous. Et moi, j'allais les voir dans trois prisons différentes. Dans la même journée, je faisais le tour de toute la Palestine pour les voir. Parfois, je ne savais pas où ils étaient, ils avaient été transférés sans que je le sache. Un jour, je les ai cherchés dans toutes les prisons de Palestine sans les trouver. Avec la pluie et le soleil, moi, je montais dans le bus et j'allais les voir, Mohamed dans la prison de Al-Qa'il, puis Abu Ali, et enfin Saïd à Adarim. C'est ça ma vie. Des allers-retours continus d'une prison à l'autre, d'un procès à l'autre. Et la nuit, j'étais seule avec moi-même. Depuis plusieurs années, le village palestinien de Nabi Saleh, au nord de Ramallah, lutte contre l'occupation des terres par la colonie israélienne voisine et fait face à une politique d'arrestation massive et constante. Chaque famille ou presque a une histoire de prison. Des mois durant, Assia Zeno a partagé la vie et le combat des habitants du village, manifestant avec eux chaque semaine, sous les yeux et parfois les tirs de l'armée israélienne. Anciens prisonniers et familles de détenus lui ont raconté la place centrale qu'occupe la prison dans leur vie, à quel point elle imprègne et organise le quotidien des Palestiniens et des Palestiniennes. Mais, à travers ces rares moments, percent aussi les tentatives individuelles de subvertir l'expérience de la détention et de redonner du sens aux sacrifices et aux traumatismes vécus. Du coup, vous allez pouvoir partager autour de ce livre à la librairie Terre des Livres, qui situe rue de Marseille, dans les premiers numéros de la rue de Marseille, vers le 10, je crois. Mardi 14 février à 19h.
Et puis exactement 11 jours plus tard, c'est-à-dire dans 15 jours, le 25 février, le samedi 25 février, il y a une soirée absolument géniale qui va se dérouler, n'est-ce pas, à l'atelier des Canulars. Donc c'est aussi au 80 rue Montesquieu, c'est une soirée de soutien, je crois, à une l'auto-école professionnelle qui est une auto-école autogérée, n'est-ce pas?
Et oui, ça permet de passer son permis entre amis, sans payer d'auto-école. On se rend compte que le passage pratique à l'examen du permis de conduire est gratuit. Et oui,
il y a des choses encore gratuites.
On a pour ça une date à la préfecture. C'est un projet hyper chouette qui permet de pratiquer l'autogestion, d'apprendre à conduire avec ses amis. Et surtout, vous allez extrêmement bien manger et découvrir plein de surprises. Donc on vous donne rendez-vous le 25 février à l'atelier des Canulars.
Et le 25 février, je crois que c'est à 20h et c'est pour notamment un repas suivi éventuellement d'une boum selon votre engouement.
Il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura des bières et des frites. C'est possible. On va vous abandonner là avec l'auto-école buissonnière. N'hésitez pas à retrouver, ça vous intéresse de passer le permis autrement, que de donner beaucoup d'argent à des auto-écoles plus ou moins grosses, mais de le faire avec vos amis, de le faire de manière autogérée. N'hésitez pas à aller regarder ce que fait l'auto-école buissonnière. Ils ont publié plusieurs guides, notamment sur leurs activités, qu'on peut retrouver sur un site d'info local qui, je crois, s'appelle rebellion.info. N'hésitez pas à aller regarder ces informations-là et puis d'autres sur ce site-là. D'ici là, Noise Pollution arrive dans à peu près 1 minute 20 d'après la pendule de Radio Canu. Nous, on vous laisse exceptionnellement en avance. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec, entre autres, une magnifique interview avec les camarades toulousains et toulousaines qui se mobilisent auprès des migrants et des migrantes. Et d'ici là, n'oubliez pas, paniquez pas.
Niquez tout.
Niquez tout.
Sur Radio Canu, c'était Sonic Youth
avec I Don't Want to Push It,
les Melvins
avec Zodiac,
Psychic TV
et Monte Cazzazza,
Lies and Spies.
Lies and Spies.